Le 9 mai, c'est un concert, c'est du son contre la prison, à Ursa Minor, à Saint-Étienne.
Ce jour-là, le 9 mai, c'est un concert de rap, avec Tornade, Billy Breloc, Dialectic Music.
Le 9 mai, c'est pour l'intérieur, c'est pour tout le monde, c'est de 21h à minuit, en direct sur ta radio locale, sur plein d'autres, en France, en Belgique.
Du son contre la prison, c'est un concert, mais pas que. C'est aussi l'occasion de ramener la question carcérale sur le devant de la scène.
De donner un avis de l'intérieur, un avis de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, de ce que nos proches vivent, pas ceux des politicards, pas ceux des matons. Alors si vous reconnaissez, si vous avez envie qu'on parle de votre prison, de vos galères, de vos problèmes, faire un peu ressentir ce qui se passe dedans, ce qui se passe dans une cellule, ce qui se passe quand la porte elle se ferme, vos revendications, vos combats, vous avez la possibilité.
Ce sera retransmis sur plus de 20 radios. Alors pour que vos textes soient lus pendant la soirée, n'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse. L'Envolée, chez CSA La Gueule Noire,
16 rue du Mont,
42100 Saint-Étienne.
Rien que ça, écrire sur une feuille en papier. Rien que ça, pour pouvoir s'évader. Rien que ça, et toi tu vois comment tu fais.
Du son contre la prison, c'est pour tout le monde, c'est pour parler, c'est pour qu'on sache, c'est pour que ce soit plus fermé, c'est pour que les secrets soient levés. Alors on se retrouve sur les ondes le vendredi 9 mai à 21h avec du bon son, du son contre la prison.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Plusieurs magasins, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2. On est le mercredi 30 avril 2014, il est 19h06 et c'est le début du Canu Info.
Avec ce soir, bref, on va parler de la Grèce.
Ensuite, un scoop, carcasse explosive.
Le procès de Pinard Selec, la guerre des nerfs continue.
On poursuivra avec une info sur PSA Peugeot Citroën. Des salariés font don de leur prime au Resto du Cœur.
Pour les militaires français, tout est permis à l'étranger depuis une loi de décembre 2013.
On apprendra à connaître les armes de l'ennemi avec le fichier Morgan.
Et on continuera à connaître les armes de l'ennemi avec une nouvelle technique pour les empreintes digitales.
Et on commence par parler de la Grèce, où il y a eu plus de 20 000 manifestations en Grèce, 4 ans d'austérité. C'est un document qui a été sorti par la police. où ont été recensés dans le pays ces quatre dernières années 20 210 exactement manifestations, rassemblements ou mobilisations, et dont 6266 à Athènes. Ce comptage a été effectué à partir du 8 mai 2010, et le 8 mai 2010, la date de la signature du premier prêt de 110 milliards d'euros octroyé par les créanciers internationaux à la Grèce. Une info plutôt étonnante, d'une carcasse explosive. Et oui, les animaux peuvent être des dangers et des dangers d'explosion. Et la baleine bleue, qui, ça c'est une baleine bleue qui est longue de 25 mètres et qui pèse près de 80 tonnes, qui est morte et qui s'est échouée sur la plage de True River au Canada il y a plusieurs jours. Et maintenant, la population de True River a peur parce qu'ils pensent que le corps très gonflé pourrait exploser à n'importe quel moment.
Mais ça arrive vraiment, ça ?
Et oui, j'ai vu une vidéo d'un cachalot échoué et un humain qui essayait de le déplacer, etc., de l'ouvrir, etc., a vécu l'explosion. Et c'est vrai que la vidéo est assez impressionnante. Et il faut bien dire que la baleine bleue, ben, c'est le plus grand mammifère de la planète. Et que quand elle s'échoue sur une plage, s'en débarrasser n'est pas une mince affaire. Et donc là, l'explosion est quasi imminente de la carcasse. Et comment ça s'explique ? C'est que lorsqu'une baleine meurt, les aliments sont en décomposition donc dans son estomac, et la nourriture donc contenue dans ses intestins moisit, et les bactéries se multiplient à l'intérieur du corps, et donc ça provoque et ça crée plein de gaz.
Mais comme elle a plus les muscles pour péter, puisqu'elle est morte.
Voilà, ça gonfle dans le ventre. Et voilà, ça produit aussi de la chaleur. Et donc, la pression devient trop forte, l'animal explose, et ce qui fait que là, la population est inquiète. Et ce qui fait que, en plus, ils sont inquiets parce que ça va être bientôt la saison touristique et ils ne savent pas trop quoi faire avec tout ça.
Il est l'heure du repas, vous êtes bien sur Radio Canu, 102 MHz.
Bon, une info plus importante, c'est un nouveau procès de Pinar Selek et donc cette guerre des nerfs qui continue. Donc aujourd'hui, à l'issue de l'audience...
Que tu nous rappelles vite de faire qui est Pinar Selek. Oui.
Bien sûr. Donc Pinar Selek, c'est une sociologue féministe militante turque qui est victime d'harcèlement de la part du gouvernement turc depuis 2008. Depuis 98. Donc 15 ans. Et donc là, en fait, c'est ses avocats qui ont mené un procès, justement. Et pour une fois, ce n'était pas à l'initiative de notamment Erdogan et de la justice, mais c'était plus ses avocats pour demander, en fait, l'arrêt des poursuites, puisque son dernier procès l'a condamné à la prison à perpétuité en Turquie.
Le harcèlement dont elle est victime est dû en particulier à son implication aux côtés des Kurdes d'une part et des trans d'autre part.
Voilà, et elle a été accusée donc en 98 de collusion avec le terrorisme sur la foi d'aveu d'un prétendu complice extorqué sous la torture. Et notamment c'était... soi-disant sur une bombe qui aurait été déposée lors d'un marché. Et donc, il y a eu beaucoup de... Elle a subi différents procès. Donc, attendez, j'essaie de retrouver les dates. Donc, elle a été acquittée trois fois en 2006, 2008 et 2011. Et elle a ensuite été condamnée à perpétuité l'année dernière, le 24 janvier 2013. 15 ans après les faits. Et donc là, aujourd'hui, c'était vraiment donc ces avocats qui demandaient la fin de ce truc. Et bien évidemment, le jugement a été reporté en juin, puisque eux veulent faire traîner la chose.
Après, il faut encore souligner que, heureusement pour elle, elle n'est pas en Turquie pendant tout ce temps.
Non, elle est en France, elle a le statut de réfugiée politique. Et heureusement, Paris a opposé une fin de non-recevoir à demande d'extradition introduite par Ankara. Parce que depuis, du coup, le 24 janvier 2013, Ankara demande de la livrer aux autorités turques pour qu'elle soit, pour qu'elle purge sa peine en Turquie. Et que, bah, au moins aujourd'hui, ils ont dit non, mais on arrête et on ne vous donnera jamais cette personne. Mais voilà, donc continuons la solidarité avec Pinar Selek pour que cesse l'acharnement politico-judiciaire face à des personnes comme ça qui écrivent et qui dérangent énormément des gouvernements. You're not laughing, poet or pauper, which to your classrooms, speak eloquent, though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant, call it urban, call it street, or rose by any other names, more just as sweet, spit so hard but I'm smart as the bar come through with a union. Et je vais parler un peu de quelques ouvriers de PSA, Peugeot, Citroën. En fait, ils ont reçu des primes de quelques centimes ou de quelques euros. Et donc ça, c'est sur le site de PSA du Peugeot Citroën de Valenciennes. Et donc, vu que leur prime était complètement ridicule par rapport... par rapport à leur travail sur l'année, ils ont décidé, pour marquer leur colère, mais en même temps d'une manière assez chouette, c'est de verser toutes leurs primes au Resto du Cœur.
C'est quand même pas avec ça que les pauvres vont manger du caviar à tous les repas.
Non, parce que les primes allaient de 40 centimes à 18 euros. Ce qu'ils jugent bien évidemment plutôt misérable et pas du tout acceptable. Donc ils ont remis au Resto du Cœur aujourd'hui plusieurs centaines de chèques. Au total, plus de 500 salariés ont remis leur prime de participation au Resto du Cœur, ce qui est quand même beaucoup, 500 salariés. Et attention, ça représente 6000 euros. Voilà, okay. Ce qui est quand même pas mal pour les Restos du Cœur, mais ce qui est dérisoire sur 500 salariés. Et là... Quant au patron de PSA, Carlos Tavares...
C'est ça, ça fait une moyenne de 12 euros par salarié.
Ouais. Et lui, il va toucher un salaire brut de 1,3 million d'euros par an.
Et lui, est-ce qu'il va donner son chèque au Resto du Cœur?
Ah ben non, je pense pas. Et surtout qu'on est vraiment loin de ces 6 000 euros de ces 500 salariés. Et du coup, les 1,3 million d'euros par an, c'est pas tout. Parce que c'est. En plus, il y a une part variable où on ne notifie pas le nombre d'argent. Du coup, la part variable, j'imagine également des formes de primes qui ne doivent pas être de 12 centimes. Et il y a aussi les actionnaires de PSA qui viennent de toucher 100 millions d'euros avec l'augmentation du capital de 3 milliards d'euros qui permet l'arrivée de l'État et du chinois Dongfeng comme nouvel actionnaire. Donc c'est-à-dire que là où des actionnaires là où on montre qu'une entreprise se porte bien puisqu'elle a les trop perçus du moins donnés aux actionnaires et des nouvelles entreprises qui du moins ça montre que le groupe se porte bien alors que les salariés touchent 12 euros par an en prime. Et sinon, donc partie du site de Valenciennes, cette initiative solidaire est reprise par des salariés de plusieurs autres usines du constructeur automobile, notamment à Saint-Ouen, Poissy, Treymet et Bonny, près de Metz, de la fonderie de Sept-Fonds et des ingénieurs et techniciens du centre de recherche de la Garenne se sont joints à ce mouvement.
Eh ben moi je vais vous parler de cette relativement nouvelle loi. Alors vous allez voir, Radio Canu à la pointe de l'information comme d'habitude. L'information que je vais vous livrer maintenant date du mois de décembre dernier. Donc il s'agit d'une nouvelle loi de programmation militaire, bon, celle dont on avait entendu parler à l'époque, mais d'un de ses aspects, un de ses aspects particuliers, qui, tout bêtement, qui renforce l'impunité dont bénéficient les militaires français quand ils sont en opération extérieure, ce qui se dit dans le jargon militaire en OPEX. Alors, donc la loi a été votée le 18 décembre 2013. Et dans cette loi, plusieurs articles entendent éviter ce qu'ils appellent une judiciarisation inutile des opérations militaires. Qu'est-ce que ça veut dire judiciarisation ? Ça voudrait dire que les militaires seraient redevables devant la justice de ce qu'ils font, un peu comme vous et moi, la plupart du temps, même tout le temps. Mais donc les militaires en opération extérieure, ça présente quelques inconvénients, cette histoire de judiciarisation. Alors ce que je vais vous raconter, c'est basé sur un petit texte qu'on trouve sur le site de Survie, un texte qui a été écrit par Raphaël Granvaux, qui est le gars qui a écrit tout un bouquin le bouquin s'appelle Que fait l'armée française en Afrique. C'est un petit peu un expert de ces choses-là. Donc il nous dit que dans cette loi, que cette loi déjà répond à une demande pressante des officiers français depuis plusieurs années, et qu'il s'agit d'abord de renforcer l'excuse pénale pour usage de la force, qui avait déjà été introduite en 2005. Cette excuse devait théoriquement s'adapter à la réalité des missions des soldats en OPEX, donc en opération extérieure, mission qui consiste le plus fréquemment de nos jours, dans les années 2010 et même 2000, en action de police, de gestion de foule, de coercition, beaucoup plus qu'en manœuvre militaire proprement dite. Donc jusqu'à 2005, tant qu'il n'y avait pas de déclaration de guerre officielle, les soldats n'étaient pas vraiment autorisés à tirer sur des gens à part en légitime défense. Bon, en théorie, bien sûr, nous précise Raphaël Granvaux, uniquement en théorie. Dans la pratique, il en allait déjà autrement. Depuis la réforme du statut général des militaires, ils peuvent faire usage de leurs armes, y compris contre des civils, dès lors que cette action est jugée utile à l'accomplissement de leur mission et qu'elle est conforme au droit international. C'est-à-dire, en gros, une fois qu'on a une résolution de l'ONU qui les autorise à agir dans le but qui est fixé par la résolution du moment, là, à agir par tous les moyens, comme ça a été par exemple le cas en Côte d'Ivoire au moment des massacres de civils en novembre 2004. La loi précise dans son... Alors, du coup, la loi de 2013, cette fois, celle dont je vous parle, dans son article 19, que cette excuse pénale s'applique également à toute opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quel que soit son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants et la police en haute mer. C'est-à-dire en gros que les militaires français, en mission, du moment qu'ils sont à l'extérieur du territoire français, ils peuvent en gros faire tout ce qu'ils veulent. Alors vous allez voir, c'est pas exactement ça, mais c'est presque ça. Il s'agit notamment de couvrir les militaires, qui sont déjà protégés dans ce cas-là par leur anonymat, au moment où ils agissent dans le cadre des opérations secrètes du COS, le Commandement des Affaires Spéciales. Ça, c'est un truc c'est des opérations qui ne sont pas soumises à l'information du Parlement, c'est des opérations qui sont décidées directement de l'Élysée. Le code de la défense est également modifié, enjoignant la justice de n'examiner l'éventuelle responsabilité pénale des militaires pour des faits non intentionnels que au vu de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leur mission, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action du combat. Bon, ce bout de phrase a l'air de pas servir à grand chose. En réalité, il sert surtout, semble-t-il, à suggérer toutes les circonstances atténuantes qu'il peut y avoir pour des militaires qui feraient n'importe quoi, qui se mettraient à buter n'importe qui. Parce qu'ils trouvent que c'est plus pratique pour toutes les exactions qu'on peut imaginer que des militaires peuvent se retrouver à faire quand ils sont en armée d'occupation, c'est-à-dire en gros à chaque fois que l'armée française est en Afrique. Quoi qu'on puisse penser par ailleurs de la légitimité ou non de l'occupation selon les cas, mais dans tous les cas c'est des armées d'occupation à chaque fois, quoi. Après la disparition du tribunal aux armées de Paris, on n'est jamais trop prudent. Ah oui, je ne sais pas ce que veut dire cette phrase, on va passer. Monopole du parquet. Eh ben oui, voilà. Surtout, c'est l'article 18 de cette loi qui donne au parquet le monopole de la mise en mouvement de l'action publique pour toute infraction qui est commise par un militaire à l'étranger dans l'accomplissement de sa mission. Ce qui veut dire que Alors non, en fait, ça, d'où ça vient, ça a été déclenché par une histoire de plainte de familles de militaires français qui sont morts en Afghanistan en 2008. L'affaire qui est dite 12 Bin, qui est un endroit en Afghanistan où il y avait eu des accrochages entre l'armée française et les talibans. Il y avait plusieurs militaires français qui s'étaient fait buter. Et là, les familles des militaires français avaient vu rouge. Bon, visiblement, on les avait jamais avertis que être militaire, c'est quand même aller faire la guerre. Mais bon, elles avaient vu rouge et elles avaient poursuivi l'armée. En disant que le processus de décision, ça avait été n'importe quoi, qu'on avait fait courir des risques à leur gamin. Bon, encore une fois, leur gamin était militaire, mais... Et la Cour de cassation avait en effet estimé que le processus judiciaire pouvait être activé par la constitution de partie civile, c'est-à-dire que les familles pouvaient effectivement lancer une plainte et puis hop, qu'il y ait un procès parce que les familles avaient lancé la plainte. C'est une jurisprudence qu'il s'agissait, du coup, maintenant que la loi est votée, de briser au plus vite. Officiellement, au nom de l'égalité entre militaires et civils, puisque les civils, pour les civils, le parquet a le monopole des poursuites en cas de délit commis à l'étranger. Ah oui, bah ça veut dire que si vous et moi, on va demain en dehors de la France et puis qu'on décide d'agresser une petite vieille, il faudra que ce soit le procureur qui nous poursuive en France. Ça pourrait pas être. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas exclusif de ce que peut faire la justice du pays dans lequel on gifle la petite vieille. Hein. Mais par contre, si vous giflez une petite vieille et que les enfants de la petite vieille, par exemple, veulent se constituer partie civile en France une fois que vous vous êtes rentré, ils pourront pas. C'est que le parquet qui peut faire ça. Donc là, c'était l'idée que les civils, les militaires, il n'y a pas de raison que ce soit différent. En fait, il y a un petit peu des raisons quand même, parce que les militaires, par exemple, sont armés tout le temps et qu'ils sont tout le temps en position beaucoup plus facilement de faire n'importe quoi. Et surtout, cette nouvelle loi étend le monopole du parquet aux affaires criminelles et supprime de fait le droit de constitution de partie civile. C'est-à-dire que plus personne ne peut se constituer partie civile contre des militaires français. Et là, l'article plus loin n'en parle pas, mais une des motivations de ça, ça a aussi été des histoires de plaintes contre des militaires français qui participaient à l'opération turquoise. Donc, vous voyez l'opération turquoise, le génocide rwandais, la France qui a co-organisé le génocide, et puis au moment où le camp qui commet le génocide est en train de perdre... La France décide d'envoyer l'armée, soi-disant, pour arrêter la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Mais bon, parler de guerre civile entre les Hutus et les Tutsis, c'est un peu comme de parler de guerre civile entre les nazis et les juifs en 39. Donc, l'armée arrive et en réalité exfiltre les gens les Rwandais qui commettaient le génocide, mais donc qui étaient les amis de la France. Ça, c'est l'opération turquoise. Pendant cette opération, il y a des histoires de militaires français qui, lors de barrages et de contrôles sur les routes, auraient commis des viols sur des femmes tutsis. Et en fait, ça, mais longtemps après, hein, peut-être, il me semble que c'est plutôt aux alentours des 10 ans du génocide, il y a eu une série de plaintes contre des militaires français. Donc, constitution de partie civile, ça, au moins, maintenant, ça sera plus possible. Les plaintes seront plus possibles. Attention, je parlais pas des viols. Ça, les viols par l'armée française, ça reste possible, donc. Alors, les plaintes, en réalité, seront toujours possibles, me dit la suite de l'article, mais seul le parquet, dont on connaît l'indépendance à l'égard du pouvoir politique, jugera de leur opportunité. Donc ça, je vais aussi refaire vite fait, hein, mais en gros, dans la justice, les juges sont censés être indépendants parce qu'ils sont pas nommés directement par le président, les ministres, les ministères, etc., etc. Les procureurs, par contre, eux, ils dépendent directement du ministère de la justice. Ce qui veut dire en gros qu'ils sont là pour obéir au gouvernement, contrairement théoriquement aux juges. Donc là, ça sera le parquet, donc le procureur, qui décidera si la plainte sert à quelque chose ou pas, alors que normalement c'est quand même plutôt le juge qui décide de ça. L'institution pourra donc continuer à gérer en interne les scandales éventuels. On se souvient par exemple de la manière dont avaient été étouffées en 2008 les accusations de torture qui avaient été portées par des soldats suédois contre des militaires français qui agissaient en République démocratique du Congo. Le principal officier qui avait été visé par ces accusations de torture, qui s'appelle le colonel Rastouille, il s'appelle vraiment le colonel Rastouille, est depuis devenu général et il a accédé à des postes sensibles comme celui de directeur des opérations de la DGSE. Alors, Les motivations de ces lois qui ont été mentionnées par dans le rapport des sénateurs, déjà, donc ces motivations ne manquent pas d'intérêt, nous dit Raphaël Granvaux. Ainsi, on évoque le précédent que constituait la loi d'adaptation à la Cour pénale internationale. Là encore, c'est le ministère public qui dispose du monopole de poursuivre les criminels contre l'humanité qui résident sur notre sol. Donc ça, c'est les criminels français ou pas français, militaires ou pas militaires, mais c'est par exemple, on va reparler du Rwanda, Agatha Biharimana, qui est en France depuis le début du génocide, qui est considérée par le monde entier comme étant un des cerveaux du génocide, et il y a des tonnes de plaintes contre elle, et bon, une fois de temps en temps, là, donc dans les 20 dernières années, c'est arrivé qu'elle se fasse arrêter, qu'elle passe 3 jours en prison, et puis finalement, non, qu'elle soit relâchée. Je pense qu'elle s'est fait arrêter 2-3 fois en 20 ans. À chaque fois, elle s'est fait relâcher au bout de 2-3 jours. Et bon là elle râle parce qu'on veut pas lui donner une carte de séjour, mais en attendant elle vit dans un château en banlieue parisienne, et c'est donc une criminelle contre l'humanité aux yeux du monde entier, mais pas de la justice française qui a pas très envie de s'en soucier, puisque encore une fois ça devrait être le parquet qui lancerait ces procédures, et le parquet, comme dit Raphaël Granvaux, le parquet s'est toujours illustré par son zèle à ne pas poursuivre ceux qui auraient pu l'être. D'autres considérations reflètent surtout les intérêts corporatistes des officiers. Ainsi, plus qu'un risque éventuel de condamnation, les officiers semblent surtout inquiets du préjudice en termes de progression de carrière que constitue une mise en cause judiciaire, sans condamnation. Bon voilà, ils ne veulent pas de plainte parce qu'après ils risquent de pas monter en grade assez vite. Mais ça à la limite, nous perso, on s'en fout, hein, que les militaires ils montent en grade ou pas. Ça, à la limite, ça nous embête pas qu'ils montent en grade plus vite. Du moment qu'ils existent, le fait qu'ils existent c'est un problème, mais le fait qu'ils montent en grade, on s'en tape. Mais surtout, il s'agit d'avoir les mains libres et une impunité qui soit garantie en cas d'intervention. Faute de quoi, d'après les officiers, la judiciarisation, alors ouvrez les guillemets, la judiciarisation est susceptible d'avoir de lourdes conséquences sur la conduite des opérations. D'abord, elle peut insidieusement inhiber le commandement et affecter en conséquence l'efficacité de la manœuvre. C'est-à-dire que les militaires, s'ils ont la trouille de se faire poursuivre quand ils rentrent à la maison, parce qu'ils auraient par exemple flinguer un gamin de sang-froid alors que ça servait à rien, eh ben ils risquent d'avancer moins vite, d'aller moins vite au combat et d'hésiter avant de flinguer quelqu'un puisqu'ils risquent de se faire poursuivre. Et ça, bien sûr, effectivement, dans une logique d'armée, c'est sûr que c'est un problème. Toujours au chapitre de l'efficacité sur le terrain, est également mentionné au niveau subalterne le deuxième effet potentiellement déstructurant de l'action de combat, que serait la remise en cause éventuelle des ordres reçus par des militaires qui craindraient que leur exécution ne conduise à leur mise en cause personnelle sur le plan pénal. Ce qui veut dire que c'est un problème si les militaires, quand on leur donne un ordre, ils se mettent à réfléchir sur si cet ordre est problématique ou pas. Alors, bien sûr, tout ça est un petit peu étrange et compliqué, puisque, par exemple, il y a déjà une disposition légale en France qui dit que les militaires doivent désobéir en cas d'ordre manifestement illégal. Par exemple, chopez-moi ce gamin et butez-le. Et ben, normalement, les militaires, dans ce cas, doivent dire « Ah ben non, j'obéis pas ». Et alors, voilà. Du coup, théoriquement, les militaires devraient ne pas obéir. Et en même temps, la loi dont je suis en train de vous parler est là pour qu'ils obéissent plus rapidement et sans vraiment se poser de questions. Puisque maintenant, ils savent qu'ils pourront pas être poursuivis s'ils ont obéi. Donc, l'existence de cette loi sur le fait qu'on peut refuser d'obéir à un ordre manifestement illégal avait notamment été rappelée à l'occasion de l'affaire Mahé. Vous savez, Firmin Mahé, ce civil ivoirien qui avait été assassiné par les militaires français en Côte d'Ivoire, qui était une sorte de petit délinquant, un peu de trafiquant de drogue ou je sais pas quoi, où les militaires français, il était dans leur zone, ils les faisaient chier. Du coup, à un moment, ils ont décidé, ils sont allés chercher, ils l'ont arrêté et puis hop, ils l'ont buté. Et ceci dit, il y a eu un procès des militaires. Et donc, ça avait été rappelé que même si leur supérieur leur avait dit de le tuer, eux, ils n'avaient pas à le faire, puisqu'il n'y avait pas de raison de le tuer. Bon, mais l'institution militaire, de toute façon, préfère quand même toujours la sanction pour désobéissance au respect de la liberté de conscience, parce qu'autrement, comment vous voulez que ça marche, une armée ? Enfin, il existait un risque, alors rouvrez les guillemets, un risque potentiel aux yeux de la communauté militaire et du ministère de la Défense d'instrumentalisation de la justice au détriment des militaires et des forces armées, tendant à remettre en cause la politique étrangère des engagements armés de la France via des actions en justice portant sur les OPEX par le simple moyen de la constitution de partie civile. En clair, les autorités politiques et militaires craignaient que des individus ou des associations ne s'engouffrent par la brèche ouverte par l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Mahé et que les crimes commis par les militaires français, que des crimes commis par les militaires français en glissent à la mise en cause du caractère criminel de la politique française et de la France elle-même en général via son volet militaire. C'est-à-dire les militaires français sont envoyés généralement en Afrique. Généralement pour des trucs un peu dégueux de protection des intérêts français, mais en faisant ça, bien sûr, comme c'est des militaires, ils tuent un peu des gens qu'ils n'auraient pas dû tuer, mais ça, c'est, on pourrait dire, c'est un peu la pente naturelle du militaire. Mais là, qu'est-ce que font ces salauds de gauchistes ou les crapules anti-France de survie, par exemple? Eh ben, c'est qu'ils se servent de ce qui n'est jamais que des faits divers et bon, peut-être un peu trop d'enthousiasme de la part des militaires français. Ils servent de ça pour attaquer en justice les militaires qui, bon, ont quand même finalement un peu buté quelqu'un, voilà, nanana, et en attaquant en justice, faire reparler de l'opération d'une manière générale, de la politique française d'une manière générale, de la décision sur les opérations armées. Et ça, effectivement, c'est un truc, le gouvernement français n'en veut pas. Et donc l'article termine par « Les procédures judiciaires sont en effet l'occasion d'une médiatisation et de débats qui sont évidemment craints, c'est ce que je viens de vous dire, en ce qu'ils risquent d'écorner la douce et rassurante image de la présence humanitaire des militaires français en Afrique, image particulièrement entretenue par des décennies d'intoxication télévisée. »
Eh bien, je vais continuer à parler d'ennemis, mais cette fois d'ennemis intérieurs, de la police, et donc d'armes de l'ennemi, puisque je vais vous parler du fichier Morgan. Donc, en préambule, je voudrais dire que les fichiers là de police pour ficher les personnes sont d'abord créés par les policiers, puis légalisés par la suite. Donc ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que par exemple de 95 à 2001, le STIC a fonctionné dans l'illégalité et le JUDEX qui avait été créé en 1985 ne fut légalisé qu'en 2006. Donc c'est pour montrer que ça c'est toujours à deux niveaux, que les flics ils ont des outils de travail et qui sont ensuite connus, et puis que des associations comme la CNIL ou des gens comme ça donnent leur avis et légalisent ou pas. En attendant, c'est pour montrer aussi que la CNIL et autres choses sont un peu des pantins citoyens au service, du moins ils contribuent au citoyennisme mais ne font rien pour faire changer les fonctionnements. Mais alors Morgan, qu'est-ce que c'est? Donc c'est en février 2013 la police lyonnaise qui a créé ce fichier qui rassemble les perturbateurs entre guillemets bien sûr des quartiers classés zone de sécurité prioritaire. Il a vu le jour pour anticiper les troubles à l'ordre public mais en dehors du cadre légal. Et c'est pour ça notamment qu'il est vraiment en dehors du cadre légal, c'est que anticiper, on parle pas de personnes qui ont commis des faits qui sont répréhensibles, là on parle vraiment d'anticiper les menaces, quoi. Et c'était en 2012 que Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, il voulait mettre le paquet pour réduire la délinquance dans les quartiers dits sensibles, et de nouveaux moyens pour lutter contre la délinquance devaient être expérimentés. Et donc quelques mois plus tard, lorsqu'il en faisait un premier bilan, il affirmait que ces ZSP, donc ces zones de sécurité prioritaires, donc le nom a été mis en place en 2012, devaient être des laboratoires de pratiques applicables partout. Donc des responsables policiers ont appliqué au pied de la lettre cet encouragement de Valls à l'innovation sécuritaire, et à Lyon, la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, la DDSP, a créé donc Morgan, ce fichier des perturbateurs, Et ça s'est révélé par Lyon Capital dans son numéro du mois de mai. Là qui arrive. Donc, petit redite, les ZSP, les zones de sécurité prioritaire à Lyon, il y en a 5. Il y a le quartier de la Duchère, le quartier de Mermoz-Pinel, Vaux-en-Velin, donc il y a le quartier de la Grapinière, du Mas du Taureau, du centre-ville de Vernet, des Verchères et de la Thibaude, à Bron, le quartier Terraillon, et à Vénissieux, quartier des Minguettes. C'est pour resituer de quelle zone on parle en termes de ce fichier Morgan. Donc, par une note du service du 4 février 2013, donc le directeur départemental de la sécurité publique, Albert Doutre, donne consigne de dresser donc cette liste des perturbateurs qu'il nomme lui actifs demeurant dans ces zones. Donc, ils sont définis par Albert Doutre comme, entre guillemets, je cite, en règle générale des délinquants multi-réitérants dont le comportement génère un fort sentiment d'insécurité pour la population des quartiers. Donc là, on parle de sentiments, on parle de gens qui font peur, mais on parle à aucun moment de gens qui ont commis.
On ne sait pas exactement ce que veut dire réitérant, mais on est sûr qu'il ne dit pas récidiviste, il ne s'agit pas de gens qui ont déjà été attrapés, jugés et condamnés.
C'est ça. Donc, eux, ils nomment ce fichier, des listes de travail. Moi, je trouve ça génial comment ils enrobent tout. Voilà. Donc, ces listes de travail sont classées par quartier, donc dans une interface nommée Morgan, donc qui veut dire méthode ordonnée par genre d'archives numérisées. Ouais. C'est un nom bidon, quoi. Accessible par l'intranet de la DDSP. Donc les champs de ce casier, c'est le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse du domicile, le numéro de PV, les dates des faits, des infractions qui ont pu être commises par les personnes, les suites judiciaires des infractions qu'ont commises les personnes, par exemple convocation maison de justice, écrouée, déférée, etc. Et des observations du type connues pour stupéfiants et vol de véhicules et fréquentes les frères bidule chose. Dans certaines versions, il est ajouté le nombre de rôles TAJ, c'est-à-dire le nombre de mentions au fichier des antécédents judiciaires. Et le nom du bailleur social, où la personne vit, par exemple, l'OPAC du Rhône ou Grand Lyon Habitat, qui gère donc la plupart des logements sociaux de ces quartiers. Donc, autant dire beaucoup d'informations, des critères qui font de ces listes de travail un fichier de police au sens de la loi du 6 janvier 1978. Et du coup, c'est là où, on va dire entre guillemets, la police de Lyon est en illégalité. C'est qu'ils ne peuvent pas appeler ça des listes de travail vu ce qui est donné comme information sur les personnes. Donc, ce fichier n'a pas été autorisé par un arrêté du ministère de l'Intérieur, comme le prévoit l'article 26 de cette même loi informatique et liberté. Et du coup, là, la CNIL devrait intervenir, puisqu'ils n'ont pas été informés. Mais bon, la CNIL, pour l'instant, n'a rien dit et il continue, voilà. Donc, le chef de la police lyonnaise, on a parlé de Doutre, Albert Doutre, ainsi que Marc Sima Monti, le procureur de la République de Lyon, donc recuse le terme de fichier et parle de liste de travail pour rester dans leur forme de légalité. Et donc, nous, si on suit la logique du procureur de la République et du chef de la police de Lyon, cette liste ne constituerait pas un vrai fichier car elle ne fait que reprendre des données personnelles d'autres fichiers. Donc, dans quel but créer Morgan ? Donc, Marc Sima Monti répond qu'il faut avoir un outil plus précis pour mieux appréhender la situation, notamment lorsque les magistrats du parquet doivent décider des poursuites pénales, et ce fichier permettrait d'avoir un zoom sur la délinquance d'un quartier. Mais dans sa note du février 2013, le chef de la police d'Outre indique une autre finalité assignée à ce fichier, outre la tenue de la liste des perturbateurs. Il s'agit également d'anticiper les troubles à l'ordre public créés par ces individus. Donc ces individus semblent aussi fichés pour des infractions ou des troubles à l'ordre public qu'ils n'ont pas encore commis, mais qu'ils vont potentiellement commettre. C'est le point donc, qui pose question. Bon, c'est pas le seul, hein, c'est l'ensemble de ce fichier. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer, mais l'info essentielle est dite. Donc, voilà, fichier de police. Alors, j'en profite de continuer sur les armes de l'ennemi. Et un autre volet après le fichier policier, c'est les empreintes digitales. Et c'est tout chaud. C'est une étude sud-coréenne qui a été publiée hier, puisqu'elle a été publiée le 29 avril, par Nature Communication. Je pense que ça doit être plus Nature Communication, qui expose le principe scientifique. Donc, ces auteurs sud-coréens ont mis au point un... Alors, vous n'allez pas tout comprendre, mais je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. Un polymère aux étonnantes propriétés hydrochromiques. Pour le dire plus simplement, il s'agit d'un film plastique transparent. Vous voyez comme on couvre dans nos cuisines nos plats qu'on n'a pas fini de consommer. Dont les parties exposées à l'eau prennent presque instantanément une vive coloration rouge. Du coup, cela pourrait donner un nouveau détecteur d'humidité, mais les chercheurs des universités sud-coréennes ont songé à un autre domaine d'application, donc la police scientifique, et plus particulièrement le travail sur les empreintes digitales. Si on prend un verre, on laisse une empreinte digitale. Et c'est parce que les pores de la peau sécrètent de la sueur. Et la sueur contient des acides gras, des acides aminés et des sels minéraux. Vous me suivez jusque-là? Et c'est cette trace que la police scientifique tente, grâce à différentes techniques, de mettre en évidence sur des scènes de meurtre, de crimes, de vols, etc. Et donc, les empreintes digitales, c'est des formes de lignes dessinées par les crêtes de la peau. Et donc, les techniques de biométrie s'en servent beaucoup, puisqu'elles cherchent à reconnaître ce qu'on appelle les minuties, c'est-à-dire les points d'intersection, de bifurcation ou d'arrêt de ces lignes gravées dans l'épiderme, et qui font qu'elles deviennent uniques, sauf qu'on sait que les empreintes digitales, c'est pas le meilleur moyen biométrique puisqu'elles sont pas complètement uniques et du coup qu'il faut beaucoup d'empreintes digitales retrouvées pour identifier une même personne et que souvent des empreintes digitales partielles ne font pas preuve suffisante. Contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de séries télévisées. Sauf que là, ils viennent de trouver un peu la solution, malheureusement. Alors, je continue mon explication. Donc, voilà, ça c'est ce que je vous expliquais là sur leur méthode actuelle, c'est que donc, le dessin des empreintes papillaires sont plus ou moins uniques. Une douzaine de ces points particuliers suffit en théorie à identifier quelqu'un sans risquer de le confondre avec une autre personne. Voilà, souvent il n'y a pas assez de points particuliers pour utiliser l'empreinte. Et là, ces personnes sud-coréennes, merci. Avec cette étude, on fait que eux, ils ne s'intéressent pas du coup aux empreintes, aux formes des crêtes, etc. Ils vont s'intéresser à l'humidité. Donc ils vont se contenter de cartographier les pores qui sont à l'origine des empreintes digitales. Et c'est pour ça que leur polymère est très 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 sensible, puisque il va capter des minuscules gouttelettes d'eau de l'ordre du millionième de millilitre qui s'est mise par le porc. Donc en fait ça rend le truc beaucoup plus fiable, puisque ça va pas être l'empreinte, les 12 points de contact, ça va être les porcs.
Mais l'humidité d'un objet qu'on a touché, elle s'est évaporée avant que les flics scientifiques arrivent?
Non, parce que c'est du millionième de millilitre.
Ok.
Mais peut-être aussi, on peut imaginer que dans la sueur, l'humidité, comme elle est mélangée aux acides gras et aux acides aminés, ben, qu'elle peut pas fuir comme ça, tu vois. Si ça fait une petite émulsion, elle doit rester un peu.
Tu vois, par exemple, quand tu laisses une empreinte sur un verre, tu sais, ça fait une sorte de gras. Et je pense que c'est ce gras-là dont tu te sers, là. Ouais. Donc, ils ont comparé les images obtenues avec des agrandissements photographiques de doigts, et ils ont également constaté que certains porcs produisaient systématiquement de la sueur, que d'autres étaient moins réguliers et qu'une troisième catégorie était inactive. Ce qui pourrait constituer donc un indice supplémentaire dans la caractérisation des empreintes digitales. Donc pour ces scientifiques, la stratégie ciblant les porcs plutôt que les lignes papillaire ne vise pas à remplacer mais à compléter les techniques actuelles. C'est ce qu'ils disent. Après, on ne sait pas comment ça va être utilisé dans la pratique, parce qu'une fois que les études scientifiques elles sont là, il y a tout un tas d'outils qui sont mis en place après. Donc entre 20 et 40 emplacements de porcs suffisent à différencier une personne d'une autre, alors que les méthodes conventionnelles exigent de grandes portions d'empreintes pour une analyse fiable. Donc ça permettrait, en gros, malheureusement pour la police, d'être plus fiable pour discerner des empreintes digitales. Voilà. I take from Peter to go and pay full sunrise by sending my virtue full. What have you made if you gain the whole world but sell your own soul for the price of a pole? The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, wish to your classroom. Speak eloquent, though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, a rose by any other name's not just as sweet. Spit so hard but I'm smart as the bar. Come through with a union jack full of yarn.
Et écoutez, on va terminer un petit peu en avance, hein, mais c'est encore parce que, encore une fois, nos camarades sont pas là. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? On va faire un petit agenda. Et donc, bien sûr, qu'est-ce que c'est le phare de l'agenda? C'est demain. Vous pouvez aller à la manif du 1er mai pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses. Le rendez-vous, attention, n'est plus cette année, contrairement à une tradition multiséculaire, pas tout à fait multiséculaire, mais en tout cas une longue tradition. Le rendez-vous n'est plus à Jean Massé, mais au Breteau, et c'est à 10h30 qu'il faut aller retrouver les millions de travailleurs et travailleuses pour manifester.
Et sinon, il y a ce samedi. 3.
Alors attends, avant qu'on passe à samedi, qu'est-ce qu'on fout après la manif? Voir si vraiment on s'est levé bien trop tard parce qu'on a trop traînaillé ce soir ou que sais-je, et qu'on arrive, et que c'est plutôt vers midi qu'on est en forme. On vient au repas de quartier organisé par Radio Canut, comme chaque année. Cette fois-ci, la tradition reste bien la même. Place Satonnet.
Avec un poncho offert.
Le punch sera offert sur place, mais par contre, on vient avec à manger, parce que chaque année, de tradition multiséculaire, les gens viennent en sortant de la manif, n'ont pas pensé vraiment à amener à manger à la manif, à préparer quoi que ce soit, et là, on se retrouve avec un repas de quartier où il y a 200 personnes, il y en a 10 qui ont amené quelque chose à manger, et on crève la dalle. Donc demain, vous préparez votre gâteau, votre gratin, votre salade de riz, avant de venir au repas de quartier. Voilà, que ça soit dit une bonne fois pour toutes. Après, on peut passer à samedi.
Et donc j'ai regardé la météo, et du coup demain matin pour la manif, ça va, le temps se maintient, mais l'après-midi il y a des grandes tendances orageuses avec de la pluie.
Qu'à cela ne tienne, vous serez à l'abri sous le barnum de Radio Canut, place Satonnet.
Voilà. Donc ensuite, samedi 3 mai, j'ai trouvé une information, c'est que l'atelier des canulars fait une soirée de soutien à l'atelier des canulars, une soirée de soutien pour eux-mêmes. Et donc l'atelier des canulars, c'est un lieu dans le 7e arrondissement, rue Montesquieu 93, non
91.
91. Et donc il va y avoir plein de concerts.
Oui, mais ça, on s'en fout parce que la soirée elle-même n'a pas lieu à cet endroit.
Ah bon ?
Mais je sais pas où elle a lieu. Dans un squat.
Ah ok. Parce que oui, c'est ça que je me disais, il va y avoir plein de concerts, plein de paillettes dans ce qu'annonce le tract. Et du coup, vous pouvez trouver l'info sur leur site de l'atelier des canulars et une adresse mail, je pense, qui vous donnera l'adresse du lieu.
Et je me suis laissé dire que à cette soirée, il y aurait entre autres comme invité DJ Viga.
Waouh.
On va terminer ?
Eh ben, on peut repasser parce que le 9 mai, ça va être.
Avant, je voulais juste, on fait pas ça très souvent, mais faire un petit message privé pour dire que si jamais il existait dans l'agglomération lyonnaise un jeune dragon qui écouterait pour la première fois un Canu Info, eh ben, celui-ci lui est tout particulièrement dédié.
Le 9 mai, c'est du son contre la prison, à Ursa Minor, à Saint-Étienne.
Le 9 mai, c'est un concert de rap avec Tornade.
Mélange de flow et de rimes conscientes, tout le contraire de ces zics commerciales dansantes.
Dialectique musique et Billy Breloc.
Et c'est quand le présent, et c'est quand qu'on rentre dedans, et c'est quand qu'on range les dents.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison. Du son pour les prisonniers et les prisonnières.
Du son pour briser l'isolement.
Des échos à des luttes qui se passent derrière les barreaux.
Des ondes qui traversent les murs, ouvrent des brèches et déjouent la censure.
Le 9 mai, c'est du bon son de 21h à minuit.
En direct sur ta radio locale et sur plein d'autres radios en France et en Belgique.
Alors on se retrouve sur les ondes le vendredi 9 mai.
Et ben bonne soirée, à la semaine prochaine.
Ouais, et puis comment dire, on a l'impression que les gens de Idées Noires, l'émission qui théoriquement est après, ne sont pas là. Et c'est bien normal puisque en période de vacances scolaires, ils sont jamais là. Donc on vous laisse avec de la musique pendant 1h10 avant la suite de nos programmes.
Mmh. 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 Mmh.